RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Mapping vidéo, effets spéciaux, son et lumière, les spectacles immersifs rencontrent un grand succès en France. Des expériences captivantes en plein développement ces dernières années et qui transforment radicalement notre façon de concevoir le divertissement en le rendant plus immersif, c'est le moins que l'on puisse dire, mais aussi plus interactif et surtout mémorable. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière le rideau de ces productions spectaculaires? Je vous propose ce matin de nous plonger dans les coulisses de ces succès où, vous allez l'entendre, se mélange innovation technologique, créativité artistique et orchestration, où chaque détail contribue à l'expérience immersive. Mais parler de ces productions, c'est aussi interroger notre rapport à l'art et à la culture. Est-ce que le tout immersif ne vient-il pas masquer le tout subtil qu'offre par exemple une visite au musée? On va en parler. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que vous aimez les spectacles immersifs? Est-ce que certains vous ont marqué? Quel regard portez-vous sur ces technologies? Est-ce que vous trouvez que les expositions immersives dans les musées sont une bonne manière d'accéder à la culture et à l'art? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour discuter avec nous jusqu'à 10h, on a le plaisir d'accueillir trois invités. Je commence avec vous, Nicolas Tochet. Bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général de Super Idée, une agence de communication basée à Metz. Vous êtes aussi chroniqueur dans le magazine de l'étonnement culturel Effervescence, présenté par Stéphanie Gallet, que l'on salue. Le numérique, Nicolas Tochet, c'est un peu votre dada depuis de nombreuses années.
Oui, c'est un peu notre dada, effectivement, chez Super Idée, mais aussi je travaille régulièrement avec AV Extended, qui est une entreprise qui fait du mapping vidéo. On fait notamment celui sur la place Stanislas tous les étés depuis 2 ans, et un petit peu partout en France et ailleurs.
Bonjour Damien Fontaine.
Bonjour, Guillaume.
Bienvenue sur RCF et Radio Notre-Dame. Vous êtes metteur en scène, scénographe et compositeur de spectacles. Vous avez signé ces 15 dernières années de nombreux spectacles en France et à l'étranger. Et ce sont plus de 12 millions de personnes qui ont pu en profiter. En fin d'année, vous allez présenter un spectacle qui s'appelle Paris, cœur de lumière, le roman de Saint-Sulpice. Alors, on aura le temps d'en parler dans la seconde partie de Je pense, donc j'agis à 10h. Mais en un mot, peut-être, c'est un spectacle vraiment taillé sur mesure.
Oui, c'est un petit peu notre signature, c'est-à-dire de créer des spectacles qui soient à la fois des spectacles adaptés aux lieux dans lesquels on peut imaginer ce type d'événement, et puis surtout des spectacles qui s'inscrivent pas forcément dans une durée très longue. En l'occurrence ici, c'est une quarantaine de jours pour garder ce côté un peu éphémère et précieux du spectacle que l'on propose.
On aura bien sûr l'occasion d'y revenir tout au long de ces émissions. Bonjour Jacques de Tarragon.
Bonjour Melchior.
Bienvenue à vous également dans cette émission. Vous êtes le directeur de l'Atelier des Lumières. C'est un centre d'art numérique situé dans le 11e arrondissement de Paris. Ça a été créé par Culture Espace il y a quelques années. Et vous présentez depuis le 9 février l'Égypte des pharaons, de Khéops à Ramsès, à voir jusqu'au 5 janvier 2025. Alors on se souvient aussi d'une exposition immersive qui a rencontré un grand succès, qui était consacrée à Van Gogh.
Oui, absolument. C'était en 2019. C'était un peu la consécration de l'Atelier des Lumières après un premier succès avec une première expo en 2018 consacrée à Klimt. On a dû avoir 1,4 million de visiteurs cette année-là. Et ça nous a donné l'élan suffisant pour se projeter un petit peu loin dans l'avenir et imaginer beaucoup d'autres expositions et multiplier les projets passionnants.
Le principe de l'Atelier des Lumières, c'est quoi? C'est de présenter des œuvres, un artiste avec justement des nouvelles technologies.
Exactement, c'est le premier centre d'art numérique installé à Paris qui a pour vocation à présenter de manière originale des expositions sur les grands maîtres de l'histoire de l'art et permettre à nos visiteurs qui n'ont pas forcément l'habitude des musées de faire un premier pas vers l'art pour certains et de le découvrir de manière ludique.
Nicolas Tochet, depuis quand on parle vraiment de spectacles immersifs en France notamment? Depuis quand ces technologies, alors j'ai cité le mapping vidéo par exemple, c'est apparu quand ça?
Les collègues seront presque plus à même de répondre que moi. Je dirais que ça fait une vingtaine d'années qu'on en parle de manière peut-être plus occasionnelle et depuis 10-15 ans de manière très régulière. Ça s'est vraiment développé dans des... Au départ, c'était sur beaucoup de grandes villes, et puis finalement, ça s'est développé dans des espaces beaucoup plus réduits, notamment des villes moyennes qui se sont mises avec la démocratisation, j'allais dire, des moyens de production, hein, aussi du mapping qui permet à des villes moyennes de faire des projections sur des façades à des coûts moindres et donc de le rendre plus accessible. Mais je pense que le grand public s'y est habitué, oui, je dirais, depuis une dizaine d'années environ.
Donc, ce sont quand même des technologies, Damien Fontaine, qui sont installées en France.
Oui, en fait, les technologies se sont installées, comme le disait Nicolas, depuis une bonne dizaine d'années. La différence, après, on va avoir l'occasion de l'évoquer ensemble, oui. c'est tout ce qu'on a pu apporter les uns les autres dans cette approche et de se servir de ces nouvelles technologies de projection, de mapping, comme des outils et non pas comme des fins en soi, et d'avoir l'occasion tantôt d'être dans des expositions comme avec l'Atelier des Lumières, tantôt sur des spectacles grand public, ou alors de créer des opérations qui vont être des opérations immersives un peu plus ponctuelles. Donc, avec à chaque fois, j'ai envie de dire, une spécificité qui va être le propre de l'immersivité qu'on a envie de raconter.
Alors justement, on parle ce matin à la radio de quelque chose qui est extrêmement visuel. Parfois, c'est très compliqué de décrire, mais pour vraiment expliquer, Jacques de Tarragon, le mapping vidéo, qu'est-ce qu'on entend par là ?
Alors, pour le cas de l'Atelier des Lumières, l'idée, c'est d'investir un site à l'Atelier des Lumières. On est dans une ancienne fonderie du 19e, hein, qui a bientôt de 200 ans, dans laquelle on a c'est presque un site historique. On a fondu des éléments métalliques du pont Alexandre III, du réseau ferré parisien. Le site était un peu en décrépitude, et puis on l'a restauré de 2016 à 2018 pour y intégrer un système technique qui permet. Alors l'Atelier des Lumières, ça fait 1500 m² à peu près, la grande halle. Donc intégrer un système audiovisuel qui permette de projeter à 360 degrés sur 3300 m² de surface de projection. Et puis de venir synchroniser l'image et le son pour envelopper le visiteur dans un univers particulier.
Donc ça, c'est vraiment le principe aussi du mapping vidéo.
Oui, absolument. Ouais. Alors, bon, après, c'est une histoire de vocabulaire. Oui. Mais quand je pense à mapping vidéo, je vois la Plastane, la Fête des Lumières à Lyon ou la Nuit des Invalides. Bon, à l'Atelier des Lumières, on a entre guillemets un toolkit qui nous permet de faire de la création, d'aller poser des images dans un plan de projection. Pour moi, le vidéo mapping, c'est peut-être une erreur de vocabulaire, mais on va venir souligner une architecture, enjoliver, rendre hommage à un bâtiment, raconter son histoire d'une autre manière, etc.
Ouais. Nicolas Tochet, vous êtes d'accord avec cette définition ?
Oui, c'est ça, c'est le mapping finalement, c'est le fait de mapper, c'est-à-dire de faire une cartographie d'une façade, hein, en fait, en réalité, et donc sur cette cartographie de la façade, de projeter des images qui sont parfaitement adaptées à cette cartographie. Mais effectivement, on parle de mapping. Par exemple, pour les façades, on va parler plutôt de spectacle immersif sur ce que fait Jacques à l'Atelier des Lumières. Voilà, c'est une manière différente d'appréhender le spectacle dans l'espace public ou même dans un espace, j'allais dire, privé, hein, comme l'Atelier des Lumières. Donc, c'est une manière différente d'être immergé dans le spectacle. Et c'est vraiment cette dimension-là. Je le disais, le public s'y est un petit peu habitué dans l'espace public depuis une dizaine d'années. Mais en l'occurrence, on le réinvente de manière régulière. L'Atelier des Lumières en est un exemple.
Mais qu'est-ce qu'on réinvente justement ? Parce que la technologie, elle est là, il n'y a rien de nouveau. On réinvente la manière de présenter, par exemple, les bâtiments, les architectures, mais aussi les œuvres, c'est ça ?
Ah ouais, moi je pense qu'on réinvente déjà encore une fois la forme. La technologie évolue dans la qualité de ce qui est rendu et donc d'une certaine manière dans l'immersion, que ce soit dans le son ou la lumière. Et puis après c'est une démarche artistique, c'est-à-dire que la réinvention se fait aussi par les artistes qui participent à ces mappings. Chacun a sa touche, chacun a sa dimension de ce qu'il veut raconter. Et je pense que la réinvention, évidemment, la façade d'une certaine manière c'est toujours la même. On projette toujours sur une façade et si on fait un mapping toujours sur la même façade, on pourrait se dire que ça se ressemble. Mais comme une toile de peinture ou comme voilà, on pourrait se dire ben la peinture j'en ai déjà vu, très bien, pourtant chaque artiste a sa spécificité en peinture. C'est un petit peu la même chose avec le mapping, et quand je parlais de démocratisation de moyens de production, je pense qu'il y a de plus en plus d'artistes différents qui sont à même de s'approprier finalement cette technologie et d'en faire quelque chose de différent à chaque fois.
Jacques de Tarragon, c'est intéressant ce que nous dit Nicolas, ça veut dire aussi qu'il faut s'adapter à l'artiste, même s'il n'est plus là, il faut s'adapter à son œuvre.
Absolument. D'ailleurs, on le fait la plupart du temps avec des ayants droit, hein, qui sont un peu nos guides scientifiques sur les expositions. Quand on lance une expo comme la dernière sur Marc Chagall, on va, dès le début du processus créatif, se mettre main dans la main avec les ayants droit pour essayer de percer le mystère de l'artiste et d'aller retranscrire de la manière la plus fidèle possible son art, à travers un autre prisme, certes, mais enfin, on essaye d'être le plus fidèle possible à l'esprit créatif de celui à qui on décide de rendre hommage.
Damien Fontaine, pour le cas de ce que vous allez présenter donc en fin d'année, Paris, cœur de lumière, on est sur du mapping, j'ai encore joué avec les mots, c'est de la vidéo qui va s'adapter au bâtiment et en l'occurrence de l'église Saint-Sulpice.
Oui, alors en fait, pour rebondir un petit peu ce que disaient mes confrères à l'instant, c'est vrai que on est dans une logique finalement de développement de technologie. On parle aujourd'hui de mapping. Il y a quelques années encore, on était sur des diapositives parfois mouvantes, parfois statiques. Et puis encore quelques siècles auparavant, on était sur la lanterne magique. En fait, on a simplement utilisé des moyens qui se sont développés grâce à toute la progression du numérique, grâce à la progression informatique, et ce qui nous permet aujourd'hui finalement d'avoir des images animées, mais qui, encore une fois, il y a une quinzaine d'années, et existaient déjà, mais d'une autre manière, à travers, je le disais, des repérages optiques qui permettaient de ciseler des projections plus statiques. Alors là, en l'occurrence, on a des moyens nouveaux, grâce aussi à des projecteurs vidéo de forte puissance qui n'existaient pas encore il y a une quinzaine d'années. Et ces projecteurs nous permettent justement d'articuler des images à la dentelle finalement des lieux dans lesquels on s'immerge et dans lesquels on immerge le spectateur. Et puis après, je dirais l'étape suivante, et c'est un peu ce qu'on en fait les uns les autres, en l'occurrence pour revenir sur Paris Cœur de Lumière, où on est vraiment dans un spectacle immersif, mais pas uniquement par la technologie ou par les pattes techniques, mais par l'aspect aussi humain, puisqu'il est question de 150 à 200 personnes qui interagissent, qui sont des acteurs, des figurants, qui interagissent avec l'image. Et c'est donc pas simplement une image, j'allais dire, parfois un peu froide, ce qui n'est pas le cas de mes confrères, hein, mais je veux dire, qui pourrait être une image un peu froide dans un lieu, alors que justement, elle va être, entre guillemets, réchauffée par la présence humaine.
Surtout dans une église.
Surtout dans une église où il fait d'ailleurs particulièrement froid dans ces périodes un peu hivernales.
Ce sera en octobre, novembre.
C'est du 16 octobre au 23 novembre.
Ouais, donc voilà, il va falloir chauffer un petit peu la foule. Nicolas Tochet, vous avez fait le choix dans votre agence de communication qui s'appelle Super Idée d'essayer justement d'innover la communication en utilisant toutes ces nouvelles technologies. Pourquoi vous avez fait ce choix?
Alors c'est vrai que Super Idée, c'est je le disais, on travaille à la fois avec Lindit sur la dimension mapping, mais Super Idée, on se qualifie même pas forcément d'agence de création, d'agence justement de communication, mais d'agence créative. On fait de la communication de manière assez classique, des sites web, du print, etc. Mais on vient, mon associé et moi, d'une dimension plutôt culturelle. Je me suis occupé de salles de concert, et lui s'est occupé de manifestations comme Constellation, MS, etc. Et je pense qu'on a amené ça dans l'agence de communication, ce qui fait qu'on a été par exemple présent à la Fête des Lumières en décembre avec une exposition qui était plutôt à destination du jeune public, plutôt interactive. Et je pense que ce qu'on essaie d'amener, c'est le côté peut-être un peu ludique. Alors ça se voit peut-être dans le fond derrière moi pour vous qui êtes en face de moi, les auditeurs ne le voient pas, mais oui, c'est vrai qu'on a toujours une dimension assez ludique dans notre approche, et ça se manifeste aussi dans ce qu'on veut faire de la communication. C'est vrai que les gens qui viennent nous voir pour de la communication savent qu'ils vont avoir quelque chose de plus décalé que ce qu'ils pourraient avoir par ailleurs. Je reviens juste sur la Fête des Lumières, effectivement c'était des dispositifs qui intégraient du mapping vidéo par exemple, mais à destination des familles qui pouvaient interagir avec, ce qui est aussi une dimension qui arrive petit à petit, hein. C'était pas forcément tant le cas que ça il y a une dizaine d'années, parce que là aussi les moyens de production le permettent, les moyens technologiques le permettent aujourd'hui, et donc on peut jouer avec un mapping vidéo, jouer avec des œuvres numérique peut-être de manière plus simple aujourd'hui, elle devient interactive. Et je pense que ça, c'est dans les années qui viennent, ça va être une dimension qui va être très intéressante. C'est pas que le public ne soit pas uniquement spectateur, mais devienne acteur de l'endroit où il se trouve et de cet espace public dans lequel il se trouve.
Je rappelle que vous avez la parole ce matin pour participer à Je pense donc j'agis, nous dire un peu ce que vous pensez de ces spectacles immersifs ou des expositions immersives. Venez témoigner au 04 72 38 20 23. Jacques de Tarragon, je reviens à l'atelier des Lumières. Justement, on parle de spectacle immersif. Ça veut dire que le spectateur, le visiteur, est plongé à 360 degrés dans des œuvres. Oui. C'est vraiment l'objectif.
Exactement. On a le leitmotiv de Culture Espace, c'est de partager la culture avec le plus grand nombre. Ça fait 30 ans qu'on est opérateur de musées, pour la plupart traditionnels. Et en 2012, on a fait le saut dans le numérique. On a noté, on a décelé, en fait, on a une statistique qui nous a toujours fait un peu peur. On a compris que 70% des Français n'allaient pas dans les musées. Et on s'est dit, on veut proposer un moyen facilité pour donner envie aux gens de découvrir l'univers créatif de certains grands artistes qu'on adore tous dans notre entreprise. On a fait le saut du numérique à Carrière de Lumière au Beau-de-Provence, où ce type d'exposition préexistait, mais avec des moyens qui étaient très simplistes. Et la technologie aidant, avec des vidéoprojecteurs puissants et des moyens vidéo qui nous permettaient de faire de la création, on a noté qu'il y avait de plus en plus de demandes, et dans un petit endroit de province, entre guillemets, qui est assez touristique quand même, on s'est dit, c'est bizarre, on arrive à avoir 700 000 visiteurs dans ces lieux-là, c'est extraordinaire, trouvons un lieu à Paris. Et puis donc on a lancé ces premières expos qui étaient couronnées de succès, et on s'est dit, en fait, on tient quelque chose, on a la possibilité de montrer à des néophytes, par exemple, une exposition hyper représentative sur le travail de Van Gogh. On connaît tous un petit peu Van Gogh, mais est-ce qu'on a la possibilité en 40-45 minutes de reparcourir 800 œuvres de Van Gogh à travers une musique qui fait un lien très étroit entre l'univers créatif de l'artiste et des ambiances qu'on va essayer d'imprimer dans l'exposition. Il y a des gens qui sortaient de là en disant c'est eux qui ont fait le vocabulaire, en fait c'est pas nous, on avait une idée originale, mais ce sont les gens qui ont dit on s'est senti complètement immergé dans cette peinture, et on a fait un 360 à travers les œuvres d'un grand artiste. Et dans un deuxième temps, ça a donné envie aux gens d'aller découvrir les œuvres originales dans les musées. Donc on s'est dit, là, on est sur un pari réussi.
Damien Fontaine, alors il y a l'image, il y a le son également, qui est extrêmement important, notamment pour votre spectacle qu'on pourra voir en fin d'année. Comment vous l'avez pensé? Est-ce que ça vient rajouter une émotion à l'image qu'on va pouvoir regarder? Ou alors c'est vraiment deux choses à part entière, deux manières artistiques de présenter quelque chose?
Non, en fait, finalement, le son participe aussi de l'expérience immersive. L'idée ici, c'est que nous, dans le cadre de ce spectacle, à Paris Cœur de Lumière, on est dans un format de type long métrage d'une heure et demie, où l'image, évidemment, est tout aussi importante que le son. Le son avec des dialogues, de la musique. Et après, ce qui est déterminant, c'est la spatialisation qu'on va opérer sur ce son, de sorte que le public, et c'est assez délicat dans une église qui a la dimension d'une cathédrale comme l'église Saint-Sulpice dans laquelle on va jouer ce spectacle. L'idée, c'est effectivement d'orienter le regard du spectateur en fonction de l'intervention, d'un intervenant, d'un artiste, d'un comédien. Donc de devoir tourner la tête quand on est à l'avant de la nef, dans la bonne direction, mais quand on est à l'arrière de la nef ou dans un transept, de tourner la tête aussi au bon endroit. Et c'est pas la même direction selon la place qu'on occupe. Ce qui veut dire que la spatialisation est assez délicate. Elle est assez simple finalement. Dans une salle de cinéma qui est conçue pour cela, elle est un peu plus compliquée dans un espace ouvragé, architecturé, et dans des volumes comme ceux d'une cathédrale.
Ouais. Jacques de Tarragon, vous êtes d'accord?
Je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que c'est particulièrement complexe dans une église. À l'atelier, on a réussi à mettre en place. C'est un grand rectangle, donc un système de son spatialisé qui permet de comme vous dites, de tourner la tête, c'est-à-dire d'attirer l'attention dans une direction ou dans une autre. Pour revenir sur la bande son de manière plus générale, ça a une importance capitale. On a On a fait des tests à une époque, on a lancé une première expo sur Salvador Dali au KR de Lumière, il y a quelques années, en y associant une bande-son uniquement consacrée à Pink Floyd. C'était le mariage était vraiment génial. Et quand on a partagé cette exposition avec l'Atelier des Lumières, on l'a proposé à nos visiteurs en 2021, on s'est dit, on va faire encore plus original et on va trouver une nouvelle bande-son. On a essayé une chose, puis deux, puis dix, puis vingt. Et l'exposition devenait terne, ennuyeuse, etc. Et on s'est dit, mais c'est incroyable. En fait, l'âme de cette expo, c'est la bande-son originale qu'on avait créée à l'origine. Et on l'a gardée. Et nos visiteurs sortaient de là sans... Enfin, systématiquement, on avait un commentaire sur le fait que, en fait, Pink Floyd et Dali étaient faits pour se rencontrer. Et, voilà.
C'est beau.
mais ce que vous dites tous les deux, Damien et Jacques, c'est que à une époque où peut-être il suffisait d'une bande son pour mettre un petit peu d'ambiance, Nicolas Tochet, maintenant le son est pensé pour faire partie à part entière vraiment du spectacle.
Ah oui, je rejoins tout à fait ce que disait Damien et Jacques là, c'est-à-dire qu'à la fois la spatialisation, et y compris dans l'espace public, est importante, hein, c'est-à-dire que sur la place Stanislas, ça marche par exemple, puisqu'on projette sur trois façades différentes, donc on a de l'avant-arrière, du gauche-droite, etc., qui permet aussi de faire tourner la tête au spectateur, ce qui est moins le cas dans une projection uniquement frontale sur une façade. Je rejoins Jacques sur le fait que le Pink Floyd était super bien vu à l'Atelier des Lumières, parce que effectivement, ça marchait extrêmement bien sur Dali, et de manière étonnante, hein, en fait, d'une certaine manière, par peut-être la période encore, hein, même pas, enfin. Voilà, en tout cas, ça marchait extrêmement bien. Et sur l'importance même de la musique en tant que telle, la synchronisation, je dirais, c'est-à-dire que on peut jouer sur des effets de son à tel ou tel moment qui ont une, comment dire, une répercussion visuelle, hein, c'est-à-dire que à la fois on a une synchronisation, il se passe quelque chose dans la musique en même temps qu'il se passe quelque chose sur l'image, et cette synchronisation-là participe évidemment de l'immersion du spectateur. Il y a des moments d'étonnement, de surprise, d'émotion, et la musique vient appuyer tout ça. Nous, on a tendance à avoir recours à des artistes invités, par exemple pour la place Stanislas, c'est French 79 qui est un artiste électro assez renommé qui fait une tournée mondiale en ce moment et il apporte une patte qui est différente de ce qu'on aurait peut-être pu avoir avec d'autres artistes. Là encore une fois, hein, je pense que c'est, on se dit, on fait simplement de la projection sur des façades, mais en l'occurrence pour nous c'est toujours un geste artistique, c'est toujours la patte d'un artiste, d'un illustrateur, d'un graphiste, d'un musicien, et c'est cette patte-là qui fait que les spectacles sont à chaque fois différents.
Et l'image ne suffit plus.
Ouais, non, okay. L'image ne suffit plus. Je pense qu'en fait, elle pourrait se suffire, mais en l'occurrence, le son donne une dimension qui n'a plus rien à voir. En fait, c'est simplement ça. Je pense que si on faisait effectivement les mêmes projections, il faudrait faire le test. Alors, on peut le faire le soir dans les projections test. Effectivement, quand on enlève la musique, ça perd une dimension, ça perd vraiment quelque chose. Donc, l'image peut-être pourrait se suffire elle-même, mais en l'occurrence, c'est le son qui ramène une dimension complète et immersive, comme on le dit.
Jacques de Tarragon, Dali et Pink Floyd, fallait y penser. Est-ce que ça a surpris ?
Oui, ça a beaucoup surpris. Ça a été jugé comme original. D'ailleurs, comme pour n'importe quel spectacle, il y a toujours des détracteurs, des gens qui sont pas d'accord. Il y a des gens qui étaient dubitatifs avant de venir. Ce qui est intéressant de voir, c'est d'analyser un peu ce que les gens en ont pensé dans post-visite. Et on avait aujourd'hui évidemment des outils assez pointus pour ça. Et quand vous voyez 95% des gens sortent de là en se disant mais c'est vraiment génial, j'avais un a priori assez négatif sur Dali et je crois que Pink Floyd m'a permis de l'apprécier.
Là, vous dites, et vice versa peut-être.
Et vice versa sûrement, exactement. Ouais, exactement. Mais c'est, Damien disait quelque chose de très juste. Il parlait de la synchronisation. C'est à mon avis c'est exactement ça. Dans un spectacle il y a par exemple 10 moments clés. Comment est-ce qu'on va venir les souligner, ces moments clés, évidemment visuellement, mais on va l'émotion qu'on a envie de donner, on va la souligner grâce à un son synchronisé en appuyant un moment particulier, en disant je veux que ce moment soit important, je veux qu'il soit triste, je veux qu'il soit gai, je veux qu'il soit explosif, et donc c'est par la musique qu'on va réussir à créer ces émotions-là.
À quel moment on se distingue d'une attraction, attraction dans un parc d'attractions? Alors moi je reviens du Futuroscope, du Puy du Fou. Il y a ce mélange son et lumière, mais on parle plutôt d'attraction plutôt que d'un spectacle immersif.
Oui, je dirais que c'est par rapport au contenu, au message qu'on va vouloir délivrer. L'Atelier des Lumières, les gens parlent de spectacle parfois. Peut-être parfois d'entertainment, je sais pas, c'est pas la vision que j'en ai moi. Et c'est par le contenu qu'on va se différencier, les messages qu'on va vouloir porter. Je ne sais pas si,
Damien et
Nicolas sont d'accord avec ça.
Alors, oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Jacques. Mais il faut souligner aussi que ces parcs, comme le Futuroscope, ont aussi fait un grand bond en avant. Ils essayent d'apporter, je dirais, du sens dans leurs propres attractions, parce qu'ils se sont rendus compte que le public...
Ça ne suffisait plus.
Oui, ça suffisait plus.
Des sièges qui bougent, ça ne suffit plus.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est un peu comme le cinéma. Dans les années 80, vous aviez l'explosion des effets spéciaux qui était incroyable, qui a donné un peu des vertiges à certains, des frayeurs et j'en passe. Et puis, parfois, vous aviez des scénarii qui n'étaient pas forcément très aboutis, mais de par justement ces effets spéciaux incroyables, on trouvait que l'enjeu était réussi. Pour autant, aujourd'hui, on va plutôt regarder un film en disant les effets spéciaux sont ratés, parce qu'on est dans une société qui ne concevrait plus maintenant que les effets spéciaux ne soient pas réussis. On va s'intéresser surtout au contenu, et c'est ce qu'on voit à travers ce qu'on peut faire les uns des autres maintenant, de développer cette partie, j'irais, d'originalité qu'on veut donner.
Allez, presque 9h30 dans Je pense donc j'agis. On va marquer une petite pause. Vous en profitez pour nous appeler et pour réagir. Dites-nous si vous aimez les spectacles immersifs, qu'est-ce qui vous marque dans ces productions? Est-ce que vous avez quelques exemples d'ailleurs? Est-ce que c'est une bonne manière également de s'approcher de la culture et de l'art? Vous témoignez au 04 72 38 20 23 tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Allez, on vous attend au 04 72 38 20 23 pour réagir par mail, également à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je ne suis jamais en retard quand c'est l'heure d'aller au boulot. Je me lève tôt, je me couche tard, parfois j'ai un peu mal au dos.
La vie normale, je l'aime bien, même si parfois je rêve d'être loin. Et si mes rêves sont banals, c'est peut-être que je les vaux bien.
Ce n'est pas de l'or dans les mains, ce n'est pas avoir 20 sur 20. Ni être roi, ni être reine, juste avoir la moyenne.
La vie normale, c'est dès qu'on peut mater les étoiles et être heureux. Et puis quand il n'y en a pas, eh ben, on s'en met dans les yeux.
Alors une fois la nuit tombée, je me balade parmi les gens. Je les entends rire, je les vois danser, ça me fait me sentir vivant.
Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire. Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire.
Et dans cette rame de métro, on se sert sans même se parler. Et si on est certainement trop, on reste beau à regarder.
On est beau de nos différences, bienvenue à toi l'étranger. Parle-moi de ton pays, je pense que ça me ferait voyager.
La vie normale, c'est comme la tienne, vivre des choses qu'on s'en souvienne. Je me contente de rien, tu vois, je veux juste le respect qu'on me doit.
La vie normale, si on l'ose, c'est comprendre qu'on n'est pas grand-chose. Il n'y a de grand que l'amour que l'on peut donner chaque jour.
Alors une fois la nuit tombée, je me balade parmi les gens. Je les entends rire, je les vois danser, ça me fait me sentir vivant.
Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire. Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire.
Pas de l'or dans les mains,
ce n'est pas avoir 20 sur 20,
ni être roi, ni être reine,
juste avoir la moyenne.
La vie normale, c'est comme la tienne,
vivre des choses qu'on s'en souvienne.
Je me contente de rien, tu vois,
je veux juste le respect qu'on me doit.
Alors une fois la nuit tombée, je me balade parmi les gens.
Je les entends rire, je les vois danser, ça me fait me sentir vivant.
Et ça rend extraordinaire ma vie, tout à fait ordinaire.
Et ça rend extraordinaire
ma vie, tout à fait ordinaire. Oh, oh, oh.
quand c'est l'heure d'aller au boulot. Je me lève tôt, je me couche tard, parfois j'ai un peu mal au dos.
La vie normale, c'était Icar et Gauvin Serre pour vous accompagner en ce jeudi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et oui, on vous attend à l'antenne pour discuter avec nos trois invités. Nicolas Tochet, je rappelle que vous êtes directeur général d'une agence qui s'appelle Super Idée. Damien Fontaine, vous allez signer et présenter Paris, cœur de lumière, le roman de Saint-Sulpice, un spectacle immersif qu'on pourra voir en fin d'année. Et puis Jacques de Tarragon, vous êtes le directeur de l'Atelier des Lumières. Alors on a pris le temps ensemble d'essayer de comprendre un peu le mécanisme de ces spectacles immersifs. Bien sûr, on pourrait en parler des heures, mais je pense qu'on a fait déjà un bon tour de table. Essayons de comprendre pourquoi ça marche. Jacques de Tarragon, vous avez peut-être été surpris par le succès de l'exposition Van Gogh Klein, qui était très instagrammable, parce que moi, étant à Lyon, j'ai vu énormément de photos passer sur Instagram de cette exposition sans bouger de mon siège.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est un succès qu'on n'avait pas mesuré. Quand on a lancé l'Atelier des Lumières, on imaginait, du fait notamment de l'éloignement du centre culturel de Paris, accueillir 300-400 000 visiteurs. Et on avait dimensionné les équipes autour de ce nombre. Et puis on a été très surpris, ça a été trois fois ça. Vous l'avez très bien dit, on propose un contenu qui est instagrammable. En fait, bon, il n'y a pas que ça, mais ce qu'on a constaté en termes de communication, c'est quoi ? C'est que les gens, contents de ce qu'ils avaient pu voir, contents de l'expérience, en ont parlé autour d'eux, sont venus une première fois en solo, puis avec des amis, puis en famille. On a noté sur nos bases qu'en fait, il y a des gens qui étaient déjà revenus 15 fois à l'Atelier des Lumières. Ça fait 5 ans qu'on existe, on a proposé une vingtaine d'expositions, courtes, longues, spéciales, mais voilà, on a des aficionados. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'efforce de proposer quelque chose de qualité pour inciter les gens à venir et en parler autour d'eux.
Donc c'est pour ça que c'est comme ça que vous pouvez expliquer le succès, peut-être.
En fait, on s'est dit au bout d'un moment, inutile de se lancer dans des campagnes de com très coûteuses. Ouais. Faisons en sorte que le bouche à oreille soit notre principal vecteur de communication.
Damien Fontaine, vous aviez présenté il y a quelque temps, par exemple, Lyon, né de la lumière, et d'autres spectacles, hein, puisque ça fait 15 ans que vous êtes, comme on dit, compositeur de spectacles. Et à chaque fois, c'est un vrai succès. D'ailleurs, en France et à l'étranger. Pourquoi ça marche ? Qu'est-ce qui se passe ?
Après, je pense qu'il y a dans ces rendez-vous l'occasion pour de vivre une expérience ensemble aussi. C'est pas uniquement une expérience immersive pour soi. Et je crois que, en plus, au sortir de toutes les crises qu'on a connues dernièrement, les gens sont encore davantage enclins à se projeter dans ces univers immersifs pour peu justement qu'ils puissent le partager. Entre eux, en famille, avec des amis. Et ce qu'expliquait Jacques, et je suis pas surpris, c'est que vous avez des gens qui reviennent avec d'autres personnes pour leur proposer l'expérience qu'ils ont eux-mêmes vécue précédemment et la vivre autrement. C'est un peu on disait qu'on n'était pas dans des attractions, mais les attractions touristiques d'hier, là où on ramenait ses proches visiter le château de Versailles, visiter un monument à Paris, bah aujourd'hui on a plutôt tendance à les emporter dans des événements qui s'inscrivent sur un temps long et qui sont ces expériences immersives en l'occurrence.
Donc voilà, un petit peu la part de l'explication, en tout cas du succès, et de comprendre pourquoi les gens reviennent, pourquoi les gens en sortent vraiment pas changés. Je vais pas aller jusque là, ce serait peut-être un petit peu trop naïf, mais en tout cas bouleversés par ce qu'ils ont vu.
Oui, et puis après vous avez en l'occurrence par rapport à ce que je peux proposer, vous avez certaines opérations qui s'inscrivent sur un temps plus court. Donc, par définition, les gens, s'ils veulent en profiter, bah, il faut forcément qu'ils viennent les voir sur ce temps qu'il leur est donné. Et moi, j'ai toujours, mais ça, c'est aussi une démarche très personnelle, j'ai toujours trouvé que le spectacle éphémère avait aussi cette spontanéité qui n'était pas celle de quelque chose qui s'inscrirait d'une manière plus longue dans le temps. Donc, quand on est sur un format de spectacle, je le disais, avec des acteurs, des intervenants, de toute façon, on peut pas, on peut difficilement les amener sur une trop longue période. Donc on est tenu, je dirais, de faire en sorte que le bouche à oreille fonctionne très vite et fonctionne plutôt bien sur un temps assez court.
Nicolas Tauchet, qu'est-ce que ça vous évoque d'entendre Damien Fontaine et Jacques de Tarragon avec vous, ce que vous avez pu observer sur le terrain, peut-être de voir les touristes, les visiteurs, en tout cas les spectateurs bouleversés par certaines productions? Comment vous pouvez l'expliquer, vous?
Je pense qu'il y a une dimension intéressante. Alors là, je reviens sur un élément peut-être un petit peu différent, puisque de l'espace public, en fait. C'est-à-dire que quand on fait des projections sur les façades un peu monumentales des cathédrales ou des hôtels de ville, etc., il y a une dimension aussi, on se retrouve dans la ville la nuit, d'une certaine manière. Et en réalité, c'est un espace avec beaucoup de touristes, de public familial, etc. Et de fait, c'est des espaces publics qui sont pas forcément occupés à ce moment-là, en théorie, à 22h, à 23h, en été, parce que le soleil tombe tard, hein, donc la nuit tombe tard. Donc de fait, on est obligé d'une certaine manière de retrouver un public nombreux tard le soir qui n'a pas forcément l'habitude de ces horaires-là de sortie parce qu'on retrouve des gens de tous âges, des enfants, etc. Et je pense qu'il y a une forme notamment dans la dimension de parcours qu'on peut avoir par exemple à la Fête des Lumières. Alors la nuit tombe plutôt, c'est en décembre, mais à Constellation, à Metz par exemple, qu'on a ici, le public sort tard et il y a une dimension de parcours puisqu'il y a plusieurs œuvres. Il y a un mapping sur la cathédrale, mais il y a aussi des œuvres autour du mapping et le public se réapproprie, se promène à 23h en ville. Et je pense que ça, cette dimension de un peu réappropriation de l'espace public, je pense qu'il y a quelque chose, la nuit, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment très intéressant, peut-être qui fait qu'on se dit la ville n'est pas dangereuse la nuit. Il y a presque quelque chose d'un peu politique dans cet ordre-là. Et en l'occurrence, cette dimension-là, je la trouve vraiment intéressante. On redécouvre un espace d'architecture via un mapping, mais aussi, on se promène en ville, on découvre au détour d'une rue, d'un espace, une œuvre numérique. Et de fait, on est un peu émerveillé. Et ça donne aussi, comme le disait Jacques tout à l'heure, je crois, ça donne envie de revenir le jour, quoi. Enfin, c'est-à-dire que on l'a vu dès la nuit, ça clignote, etc. Et ben en fait, on a aussi envie de redécouvrir la ville. On se dit, je ne connaissais pas cet espace, j'ai envie d'y revenir le jour, quoi.
Ce que je retiens dans ce que vous dites tous les trois, c'est vraiment une expérience que vous proposez avant tout, une expérience immersive. Est-ce que, certes, proposer un son et lumière, c'est une chose, mais de faire vivre une expérience, c'est encore un autre travail. Ça demande beaucoup de préparation, de création également, Jacques.
Oui, oui. Alors, c'est un travail énorme. Alors après, ça dépend des spectacles, évidemment, ouais. Mais à l'Atelier des Lumières, la création d'une exposition, c'est un an de travail pour 6 à 10 techniciens. On va choisir la thématique annuelle, en général 2-3 ans à l'avance, rencontrer les ayants droit, signer un contrat, nommer un directeur artistique et écrire une trame. Faire un grand travail iconographique de rassemblement d'images, qu'est-ce qu'on va présenter, voilà, rédiger un script, poser les images et faire des tests et encore des tests jusqu'à aboutir à un produit fini qui soit suffisamment abouti pour satisfaire 1 million de personnes. C'est un travail de titan qui est à la fois énorme mais qui va jusque dans des tout petits détails. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, on essaye d'accueillir du grand public, ça c'est très bien, mais de fait, quand on fait une exposition sur Monet, par exemple, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on va aussi accueillir des érudits, des gens qui connaissent très bien la peinture de Monet, celle des impressionnistes. Et donc, on va être obligé de soigner des détails particuliers et de leur apporter surtout quelque chose de différent. Ils ont l'habitude des musées, on va leur présenter la peinture de Monet à travers un autre prisme, à travers des détails frappants. On va les zoomer sur la peinture. La technologie nous permet ça aujourd'hui d'aller faire des focus sur des morceaux de tableau où on voit un peu les épaisseurs de peinture, etc. Donc c'est une autre approche, voilà, c'est ludique.
Si on en reste sur les musées, c'est vrai que les Français ont tendance parfois à bouder un petit peu les musées. Je crois, alors je suis pas sûr au niveau du chiffre, mais 25% des Français ne vont jamais au musée, par exemple. Est-ce que une expérience comme à vivre à l'Atelier des Lumières, c'est une manière d'approcher l'art d'une manière justement différente, ludique?
Oui, facilité, entre guillemets. Ouais. C'est une manière facilité. Quand vous voulez aller découvrir une des très belles galeries du musée d'Orsay et découvrir, je sais pas, la vie des le courant impressionniste, et que vous y allez avec deux enfants, vous y passez 2 heures, ça peut être compliqué au bout d'un moment. Donc leur donner goût à ça, leur dire t'as vu, c'est beau, on va à l'Atelier des Lumières, on découvre Monet et Pissarro, on se dit c'est exceptionnel, c'est des peintres qui avaient un talent absolument phénoménal, et réussir à faire sur une famille complète, par exemple, lever les yeux aux enfants et qu'ils puissent se dire « je suis en train de voir quelque chose de magnifique », c'est une petite graine qu'on va planter qui va probablement avoir des répercussions qui vont faire que l'enfant va se dire quand il aura 18 ans « j'ai déjà vu Monet, je m'en souviens très bien, j'ai l'occasion d'aller au musée ce week-end, je fonce ». Voilà.
Damien Fontaine, ça c'est une conviction pour vous également. Accéder à la culture, ok, c'est un objectif. Par contre, autant trouver toutes les manières les plus différentes pour y arriver.
Oui, en fait, il y a effectivement plein de leviers, comme le soulignait Jacques, plein de leviers par lesquels on offre la possibilité aux gens d'accéder à cette culture et de le faire d'une manière, encore une fois, assez ludique, et pour peut-être justement chercher d'autres choses après. Dans le cadre de ce spectacle à Paris, évidemment, nous aussi, on a un contexte historique qui est assez fort, puisque le spectacle se passe de 1640 à 1780. On a nous aussi forcément des érudits historiques qui vont venir regarder, alors pas pour pointer les erreurs éventuelles, c'est pas le but, mais qui ont soif aussi d'apprendre autre chose et autrement. Donc on doit satisfaire finalement à la fois un public qui est plutôt novice et puis parfois un public qui est plus connaisseur, mais qui se prête aussi assez facilement au jeu de cette redécouverte à la fois d'une histoire, et en l'occurrence ici d'un lieu, puisqu'il est question d'un lieu en immersivité en intérieur, effectivement une église qu'on a l'habitude d'arpenter en journée, et c'est ce que soulignait aussi Nicolas tout à l'heure, cette église-là, on va se l'approprier un peu différemment et autrement la nuit. Et moi, ce qui m'avait vraiment frappé la première fois que j'ai investi un site comme une église ou une basilique, c'est de voir finalement la retenue des gens au moment du spectacle. Quand ils rentraient, c'était un peu comme dans une salle type Zénith et autres. Et lorsque le spectacle commençait, il y avait cette dimension assez incroyable des lieux qui s'imposaient à eux et qui donnait finalement à ce public une retenue qu'on ne voit pas forcément dans des spectacles extérieurs. J'ai eu la chance de faire des spectacles devant plusieurs centaines de milliers de spectateurs en simultané. Alors c'est une effervescence incroyable, c'est une communion du public, mais c'est peut-être pas la même attention que l'on aurait justement lorsqu'on est assis ou lorsqu'on prend le temps de déambuler à l'atelier de lumière ou autre. Cette immersivité propose un rapport au visuel et au son qui est peut-être plus intime que ce qu'on aurait justement en extérieur.
Geneviève nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Geneviève.
Oui, bonjour. Écoutez, je suis dans ma 82e année et j'ai toujours adoré ce genre de technique. Alors, je suis quand même surprise que personne ne se soit manifesté jusque-là sur l'antenne. Ça, alors j'avoue que je suis la première, là, non ?
Oui, vous êtes la première, Geneviève.
La première et j'espère pas la dernière, il y a encore un petit peu de temps dans l'émission. Mais alors, j'avoue que je suis quand même très surprise. Alors, peut-être les gens ne sont pas disponibles non plus, hein. Alors, c'est vrai que toutes ces techniques, j'ai toujours aimé depuis le début. Et puis vraiment, ça génère des sensations fortes. On voit les choses d'une manière différente. Et c'est vrai que c'est impossible de rester insensible à ces nouvelles techniques. Et à Lyon, on est assez gâtés hein, dans ce domaine. On a quand même pas mal de choses pour apprécier ces spectacles d'univers immersif, on est assez gâtés sur Lyon quand même. Alors autour du 8 décembre, bien évidemment. Hein. Et puis d'autres choses, comme il y a eu là, il y a quelques années à Confluence, c'était dans le centre commercial à Confluence. Là, il y avait quelque chose. Alors c'est vrai qu'on est carrément immergé dans le décor, dans l'histoire, c'était sur l'Égypte.
Au musée des Confluences.
Oui, au musée. Non, je crois que c'était. Non, c'était pas dans le musée des Confluences que je fréquente régulièrement. C'était avant, c'était dans le centre commercial, à un endroit, je ne sais plus trop exactement. Et en fait, évidemment, avec un casque et des lunettes spéciales. c'est quand même c'est très particulier. Mais voilà, malgré même avec mon âge, j'aime beaucoup, beaucoup tout ça. Ça fait sortir un peu du quotidien pour un moment, même si on a un quotidien sympa. Mais ça fait, voilà, on voit les choses autrement. Voilà.
Et bah, 82 ans, vous êtes toute jeune, Geneviève. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Je reviens, Jacques de Tarragon, sur ce qu'elle nous a dit, Geneviève. Elle nous a dit des sensations fortes qu'on vit. Alors, elle prenait l'exemple de cette proposition. Alors, c'est à Confluence. C'est pas au musée des Confluences, en effet. Ça s'appelle l'Horizon de Khéops. Oui. C'était une expérience en réalité virtuelle avec le casque qu'il faut mettre sur les yeux.
Je pense qu'on pouvait pas parler d'immersion sans parler de réalité virtuelle.
Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé.
Cette expérience sur Khéops qui est vraiment surprenante, c'est génial parce que ça permet une vraie plongée. C'est quoi la définition du terme d'immersion ? C'est plonger dans un milieu particulier. Alors d'immersion linguistique, ça parle à tout le monde, mais pour ces choses-là, c'est un peu différent, que ce soit dans l'art ou dans une thématique historique. Pour comprendre l'Égypte, des bâtisseurs, c'est génial parce qu'on peut comprendre les différentes étapes de construction d'une pyramide, voyager dans l'Égypte antique, 2000 ans avant Jésus-Christ, et comprendre les modes de vie, la religion, la conception de la vie après la mort, etc. J'ai été faire le spectacle Éternel Notre-Dame. J'ai été complètement ébahi par la qualité de cette proposition qui dure une quarantaine de minutes et qui vous permet de voyager depuis les origines. Vous êtes à Paris dans le haut Moyen-Âge, vous êtes au 11e siècle, et puis vous parcourez les siècles et vous comprenez de manière ludique et à travers la VR, qui est très impressionnante par ailleurs, ces étapes de construction. Et je dois dire que c'est une découverte extraordinaire.
Damien Fontaine, sur le témoignage de Geneviève, elle nous disait aussi que c'était une manière d'entrer dans l'histoire. En fait, certes, il y a l'expérience aussi à vivre, mais il faut que ça raconte quelque chose. Et vous, pour Paris Cœur de Lumière, c'est une histoire qui a été repensée, recréée.
Oui, c'est une histoire qui a été repensée, recréée. Je le disais, c'est un cadre historique et c'est surtout une œuvre romanesque qui s'inscrit dans ce cadre. On est pour ce spectacle dans une approche de type roman historique qui nous permet effectivement de donner à voir l'histoire autrement et de la vivre autrement. Est-ce que ce qui m'intéressait aussi dans le témoignage de Geneviève, c'est elle a donné son âge.
Oui.
Elle avait une jeunesse dans la voix qui est incroyable, et donc je pense que c'est effectivement quelqu'un qui est extraordinairement dynamique. Mais ça prouve aussi que c'est pas uniquement des expériences qui sont réservées à un public plus jeune. On voit vraiment des gens de tous horizons, hein, de tous âges, qui se prêtent vraiment au jeu. Puisque, voilà, par définition, ce sont certes des nouvelles technologies, mais qui ne sont pas réservées aux geeks et qui permettent réellement de plonger, comme le soulignait Jacques, de plonger dans ce qui est l'antre des univers qui sont proposés et présentés.
Nicolas Tocher, un mot sur la réalité virtuelle. Ça aussi, alors ça, c'est vraiment une nouvelle technologie, pour le coup, qui est de plus en plus utilisée pour vivre des expériences immersives.
Oui, effectivement, la réalité virtuelle, c'est un élément intéressant, nouveau. Alors, il y a la question du dispositif, parce que ça impose un dispositif physique, hein, et il y a encore une petite limite, c'est-à-dire qu'on est obligé de mettre ce casque, etc. Donc, du coup, ça limite un petit peu l'expérience collective qu'on peut avoir, hein, dans les autres propositions dont on parlait jusqu'à présent. Mais c'est vrai que, par contre, il y a une immersion qui, là, est encore plus forte, puisque, de fait, on ne voit plus que cela, quoi. Donc, c'est différent. On pourrait même parler, alors c'est moins immersif, mais de la réalité augmentée, hein, qui permet aussi un certain nombre de choses sur les smartphones, hein, simplement que là tout le monde a dans sa poche un certain nombre d'expériences esthétiques plutôt intéressantes. En tout cas, on peut aussi faire des choses avec ça intéressantes. Mais je rejoins ce que disait Damien, et puis c'est ce que je disais tout à l'heure sur les spectacles en plein air, etc. Le public est hyper varié, quoi. Enfin, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de conditions sociales, etc. Donc c'est un public très large et qu'on retrouve finalement une diversité qu'on ne retrouve pas tant que ça dans toutes les esthétiques qu'on peut voir artistiques, hein, finalement. Jacques le disait, on ne retrouve peut-être pas la même diversité dans des musées, etc. Donc finalement, cet intérêt, on vient pour une curiosité peut-être pour la technologie, et en fait on en ressort avec une émotion artistique et esthétique qui est différente, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose de fort.
Bonjour Marie.
Bonjour. Oui, je précise d'emblée que je suis tout à fait favorable à ces expériences immersives. Mais il se fait que, bon, dans mon enfance, j'ai toujours beaucoup fréquenté les musées. Et j'étais très très jeune et à l'occasion de vacances en Provence, nous avons découvert à la toute fin des années 70 les carrières de lumière, justement, qui avaient ce système d'immersion totale dans des carrières, d'anciennes carrières, et j'ai été émerveillée. Et donc je trouve que c'est très très bien, c'est formidable. Mais par la suite, à Paris, en général, je travaille, mais je visite le week-end la plupart des expos qui se présentent, ou les galeries d'art, etc. Et je me suis rendu compte quand je fais des visites avec une amie ou mon conjoint, que face à des tableaux ou des sculptures, on n'a pas du tout les mêmes impressions. Je peux adorer un tableau et puis mon compagnon peut le détester. Donc il y a un choc émotionnel qui varie très fort d'une personne à l'autre face à des œuvres d'art. Et enfin moi, c'est une nourriture qui m'est indispensable. En revanche, vous dites, avec la musique, etc., on oriente les gens vers une émotion particulière. Et si on ne met pas la musique, les gens... n'ont pas la même impression. Donc, ce qui me gêne, c'est le fait, et vous dites, enfin, la personne qui en parlait, de l'atelier des Lumières, on veut orienter les gens, on veut provoquer des émotions, etc. Donc, on perd la virginité qu'on peut avoir face à une œuvre d'art. Et je trouve que c'est vraiment très, très dommage. Ça fait partie. Vraiment pas dans le but de détruire, hein.
Mais Marie, on a compris votre message. Je me permets de vous couper la parole parce qu'on arrive à la fin de cette émission. C'est une excellente transition parce que Jacques de Tarragon, je vous avais prévenu avant, je voulais qu'on parle des limites peut-être de ces expositions immersives. C'est ce que je disais en introduction, hein. Ça interroge quand même notre rapport à l'art. Oui. Est-ce que le tout immersif ne vient pas masquer ce côté subtil qu'il y a quand on va dans un musée, déambuler dans les galeries?
Alors, ça tombe très bien. On n'a pas du tout vocation à se substituer au musée traditionnel. Cette dame a un propos qui me semble tout à fait légitime. On fait une proposition. C'est une autre proposition. C'est comme dans le cinéma, il y a plusieurs genres. J'imagine que quand on fait une comédie romantique, on n'a pas vocation à aller sur les plates-bandes des producteurs de thrillers. C'est un peu la même chose. On fait une autre proposition qui est totalement différente, qui a plutôt pour vocation à inciter les gens à aller faire face aux œuvres dans les musées pour ressentir les émotions dont cette dame parlait. On n'a pas d'autre objectif que... avec les moyens dont on dispose, de faire en sorte que l'attrait pour l'art de manière générale subsiste dans les âges. Et avec notre proposition, voilà, on essaye de dire aux gens, mais regardez le travail de Monet, de Chagall, de Dali, c'est exceptionnel. Continuez à aller dans les musées et allez faire face à vos propres émotions ou à celles que l'artiste a voulu donner à travers sa peinture.
Nicolas Tochet, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, je suis complètement d'accord. C'est même le propre d'une proposition artistique. C'est ce qu'on fait. Hein. On fait que des propositions artistiques, esthétiques, on les fait de manière différente. Mais le propre de ces propositions, ben, c'est que des gens peuvent les apprécier ou ne pas les apprécier, les aimer, ne pas les aimer. Et en provoquant ces émotions-là, en réalité, c'est peut-être qu'on a réussi. J'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont ressortir transformés de manière très positive et des gens qui vont pas aimer. Et en fait, c'est le propre de toute proposition artistique, je crois.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Nicolas Tochet, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'agence Super Idée qui se trouve à Metz. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. Et puis on vous retrouve une fois par mois dans le magazine de l'étonnement culturel Effervescence présenté par Stéphanie Gallet. Merci Jacques de Tarragon.
Merci Melchior.
Et on vous retrouve, alors vous, à l'Atelier des Lumières, pour le coup, avec une exposition, hein, ce spectacle. Comment vous appelez ça d'ailleurs?
Oui, c'est une exposition. numérique sur l'Égypte des pharaons.
Voilà, l'Égypte des pharaons de Khéops à Ramsès, à voir jusqu'au 5 janvier 2025. Damien Fontaine, vous restez pour la seconde partie de Je pense donc j'agis. On va parler du Paris cœur de lumière, toujours avec vos témoignages et vos appels au 04 72 38 20 23. À tout de suite.